Cette émission, réalisée au studio son de la Parole Errante, est consacrée à l'affaire de Gino, camarade antifasciste, milanais, d'origine albanaise, actuellement enfermé à la prison de Fresnes et en risque d'extradition vers l'Hongrie.
Gino! 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 Gino!
Rexino Abazage, surnommé Gino, a été arrêté en banlieue parisienne le 12 novembre dernier. Un mandat d'arrêt européen a été prononcé contre lui par les autorités hongroises. Elle demande sa remise parce qu'elle l'accuse d'être impliquée dans les événements survenus à Budapest en février 2023, pendant une mobilisation qui s'opposait à la Journée de l'Honneur, une manifestation de néo-nazis soutenue par le gouvernement d'Orban et qui a eu lieu chaque année. Gino a été interpellé par la SDAT, la sous-direction antiterroriste. Il est détenu en ce moment à la prison de Fresnes, en attente de la décision de la Cour d'appel de Paris sur son extradition.
Par le fait d'avoir participé à cette contre-manifestation, les autorités hongroises l'accusent, avec une vingtaine d'autres militants de divers pays européens, de faire partie d'une organisation criminelle et d'infractions passibles de 25 ans de prison, bien que les preuves avancées soient floues, sans identification claire ni témoignage fiable. La disproportionnalité des peines demandées par rapport aux faits reprochés est évidente. Le cas échéant, Gino risque 16 ans de prison parce que présumé coupable d'une agression contre deux néo-nazis qui ont écopé d'une incapacité totale de travail de 5 et 6 jours. Lors de la dernière audience qui s'est tenue le 18 décembre 2024 à la Cour d'appel de Paris, la procureure générale a requis l'exécution immédiate du mandat d'arrêt européen, demandant donc aux magistrats de se soumettre aux exigences du gouvernement hongrois. Le délibéré a été fixé au 15 janvier 2025.
Le cas de l'italienne Ilaria Salis, poursuivie pour les mêmes affaires, est éclairant pour comprendre la situation en Hongrie et ce qu'on appelle l'affaire de Budapest.
Ilaria a été arrêtée et incarcérée en février 2023 à Budapest. Elle a subi 15 mois de détention provisoire dans des conditions inhumaines. Suite à son élection au Parlement européen, elle est actuellement en liberté, protégée par l'immunité parlementaire. Nous lui avons demandé de nous raconter ce qu'est la Journée de l'Honneur et les raisons pour lesquelles un contre-rassemblement international a eu lieu à cette occasion.
La Journée de l'Honneur est un rassemblement annuel où des centaines d'extrémistes de droite et de néo-nazis venus de plusieurs pays européens se réunissent à Budapest pour commémorer les soldats des troupes nazies, allemands et hongrois morts lors d'une tentative échouée de briser la siège soviétique de la ville en 1945. C'est un spectacle indécent. Des militants en uniforme de SS arborent fièrement des croix celtiques et des svastikas, glorifient le nazisme et célèbrent l'Holocauste. Le régime de Viktor Orban, au pouvoir sans interruption depuis 2010, non seulement cette manifestation n'a jamais été sérieusement entravée, mais il semble même qu'elle ait été financée avec des fonds publics. Orban tolère, voire légitime, de tels rassemblements. Il n'est donc guère surprenant que les médias, sous le contrôle direct du gouvernement, décrivent les participants comme des simples citoyens et qualifient l'événement d'apolitique. Heureusement, face à cela, il existe aussi des contre-manifestations réunissant des antifascistes venus de divers pays européens. Parce que le néofascisme nous concerne même lorsqu'il se manifeste au-delà de nos frontières. Par solidarité avec celles et ceux qui les combattent sur place, mais aussi parce qu'un germe qui prend racine quelque part risque toujours de se propager ailleurs.
Nous avons demandé à Ilaria de nous décrire les conditions de sa détention et de son procès, et pourquoi son cas fournit des arguments probants pour refuser la remise de Gino.
J'étais venue à Budapest pour manifester contre la Journée de l'Honneur. C'est dans ce contexte que j'ai été arrêtée l'11 février 2023. J'ai été extirpée d'un taxi et menottée sans aucune explication. J'ai été accusée de manière arbitraire des faits survenus les jours précédents, dont je suis innocent et je me suis toujours déclarée comme telle. Il n'y a aucune preuve contre moi et je n'ai été identifiée comme faisant partie des agresseurs par aucun des victimes et des témoins. Malgré tout, j'ai été arrêtée et détenue par mesure de précaution en prison en Hongrie pendant 15 mois dans des conditions dégradantes. On m'a laissé des jours sans savon, ni papier toilette, ni serviette hygiénique. Pendant plus de mois, j'ai été mise à l'isolement dans une cellule vétuste, sans possibilité de recevoir des vêtements et des recharges. J'ai été soumise à un interrogatoire sans mon avocat qui visait à me faire produire une confession. Pendant plus de 6 mois, je n'ai pu parler à ma famille, pas même au téléphone. L'alimentation et les produits d'hygiène étaient toujours insuffisants. Enfermée 23 heures par jour dans une cellule infestée d'insectes, mal éclairée et à peine ventilée, j'étais dans une situation qui l'ont définie comme de la torture blanche. Le process a commencé après presque un an de détention par mesure de précaution. Avant le début du process, le parquet a proposé 11 ans de prison ferme si je me déclarais coupable de toutes les accusations. J'ai évidemment refusé et alors je risque une condamnation pouvant aller jusqu'à 24 ans de prison ferme. Pendant les audiences de process, j'ai été conduite face au juge, pieds et mains liés par une chaîne et tenue en laisse. Un traitement de ce type, en plus d'être humiliant, risque aussi d'influencer négativement le juge. La Commission européenne, dans une réponse à une question sur mon affaire, a répété l'importance du principe de présomption d'innocence et a fait référence à la directive européenne qui interdit de représenter au tribunal les accusés comme des coupables à travers l'utilisation d'instruments de coercition physique, comme justement les chiens. L'injustice de ce traitement et la disproportion des accusations paraissent évidents si l'on compare à l'épisode dont je suis accusée et une autre survenue à Budapest dans les mêmes jours. Le 11 février 2023, un groupe d'une dizaine de néo-nazis a attaqué par derrière quelques personnes. Les victimes présentent des lésions graves. Un jeune souffre d'une fracture au crâne, du nez cassé, de la perte des 3 dents. La police a arrêté 2 agresseurs en flagrant délit et bien que le parquet ait demandé la détention par mesure de précaution, le tribunal a prononcé pour les 2 suspects une mesure de surveillance légère et les a remis en liberté après 2 jours de détention. Dans mon cas, à contraire, j'ai passé 15 mois en détention préventive et le juge a autorisé la résidence surveillée seulement en mai 2024 après ma candidature au Parlement européen. Et c'est seulement après mon élection, en juin, que j'ai été libérée et que j'ai finalement pu retourner en Italie grâce à l'immunité parlementaire. Les images qui me montrent pieds et mains liés et amenés en laisse à l'audience ont suscité une vague d'indignation publique presque sans précédent dans mon pays. À partir de là, s'est créé un réseau de solidarité très large et des milliers d'antifascistes m'ont soutenu en Italie et au-delà. De différentes manières, beaucoup de gens se sont mobilisés avec un objectif commun. Réunis par des idéaux antifascistes de justice et de liberté. Ma candidature et mon élection au Parlement européen s'insèrent dans ces mouvements de solidarité. Ces dernières années, l'Hongrie est régulièrement rappelée à l'ordre et sanctionnée par les autorités européennes à cause des violations de l'état de droit concernant, entre autres choses, l'indépendance de la magistrature. Dans mon cas, la première étape du jugement n'est même pas encore terminée et pourtant j'ai été condamnée à maintes reprises par M. Viktor Orban et Zoltán Kovács, son porte-parole, comme par d'autres représentants du gouvernement hongrois et par des membres de Fidesz, qui dans leurs déclarations publiques me désignent continuellement comme un criminel ou une terroriste. Dans les pays qui, de la bouche même de son premier ministre, est défini comme une démocratie libérale, les conditions minimales pour un process équitable d'antifascistes ou d'opposants politiques n'existent plus. S'il était remis à l'Hongrie, Gino sera soumis à un procès injuste dont le verdict est déjà écrit, simplement parce qu'il est un antifasciste. Lutter contre l'extradition de Gino et contre toutes les extraditions vers l'Hongrie signifie donc résister aux injustices et aux menées agressives d'un État autoritaire. Ce serait très grave qu'un pays comme la France décide de collaborer avec l'Hongrie et de lui remettre une personne qui serait soumise à un procès injuste et détenue dans des conditions déshumanisantes.
Maya, personne allemande actuellement emprisonnée en Hongrie, subit le même traitement qu'Ilaria et est victime de torture. Maya a été emprisonnée à Berlin parce qu'elle faisait partie de 20 militants recherchés par les autorités hongroises. Une fois arrêtée, la cour d'appel a donné un avis favorable à son extradition. Fin juin 2024, en plein milieu de la nuit, Maya se fait sortir de sa cellule pour être amenée en Hongrie sans que les avocats et la famille ne soient prévenus. Bien que la cour constitutionnelle fédérale allemande ait émis à 10h50 une ordonnance suspendant l'extradition, celle-ci est arrivée trop tard, car Maya avait déjà été remise aux autorités hongroises à 10h. De plus, les autorités allemandes ont refusé de fournir des informations sur le lieu où se trouvait Maya, obligeant sa famille à apprendre ces événements par la presse. En tant que personne queer, les risques de sa détention en Hongrie sont très élevés et ses conditions de détention sont inhumaines. La cellule, infestée de cafards, est placée sous vidéosurveillance et constamment fouillée.
En Italie, cette fois-ci, c'est Gabriele, une autre personne ayant participé à la contre-manifestation à Budapest, qui a été inquiétée par une extradition. Sauf que cette fois, la cour d'appel de Milan a donné un avis défavorable. Nous avons discuté avec Matteo Zamboni, avocat spécialisé en droit international, qui a défendu Gabriele et qui défend aussi Ilaria. Nous lui avons demandé de nous expliquer le fonctionnement du mandat d'arrêt européen.
Le mandat d'arrêt européen est une procédure d'extradition simplifiée qui permet à n'importe quel pays membre de l'Union européenne de demander la remise de l'individu qui se trouve dans un autre État de l'Union européenne pour qu'il puisse être jugé ou pour lui faire exécuter sa peine pour un délit. Le mandat est envoyé une fois que l'individu concerné est localisé. Dans les cas échéants, l'Hongrie a envoyé un mandat d'arrêt seulement à la France et n'ayant eu des informations comme quoi l'individu recherché était en France. C'est obligatoire pour les pays de l'Union européenne de s'activer pour répondre aux requêtes de l'Hongrie. Cela s'inscrit dans les principes de la coopération loyale des États membres de l'Union européenne. Les États membres coopèrent entre eux, entre autres choses, pour arrêter les criminels présumés. Et plus précisément, c'est obligatoire de procéder à l'interpellation de la personne visée par le mandat d'arrêt. Et après, c'est obligatoire de s'assurer che cette personne ne prend pas la fuite.
È obbligatorio assicurarsi che questa persona poi non fugga ulteriormente. Sono tenuti a prendere fisicamente questo individuo, portarlo di fronte ad un'autorità.
Il ha l'obbligation d'arrêter fisiquement l'individu, le conduire face à une autorité giudiziaria e lui demander s'il accetta ou pas d'être remis au pays qui a mis le mandat.
A Parigi, nella prima udienza, come capita spesso.
Come a Paris, lors de la première audience, ça arrive souvent che l'individu arrêté refuse l'extradition.
Cosa succede in questo caso, secondo la legge europea? Inizia un processo nel paese dove l'individuo si trova.
Selon la loi européenne, dans ces cas de figure, commence un procès dans les pays où l'individu se trouve, et c'est un procès face à la cour d'appel. Les juges de la cour d'appel doivent statuer si remettre ou pas l'individu objet du mandat d'arrêt.
La consegna dovrebbe essere la decisione naturale. Cioè il sistema è stato creato apposta per facilitare la consegna di questi individui. Quindi partiamo da un presupposto. Secondo il sistema europeo, la consegna è la regola.
La remise est donc la norme. La non-remise est l'exception. Et les exceptions sont établies par la loi. Dans les cas de Gino et dans les autres cas concernés par les mandats d'arrêt émis par l'Hongrie, se discute l'exception la plus importante, la violation des droits fondamentaux. L'article 1er, 3e paragraphe de la décision cadre établit que les mandats d'arrêt européens ne peuvent pas avoir lieu s'il y a les risques réels que son exécution puisse comporter une violation des droits fondamentaux.
E arriviamo al caso di Gabriele Marchesi.
Nous voici donc au cas de Gabriele Marchesi.
Situazione molto simile a quella di Gino, si trovava a Milano.
Sa situation est très similaire à celle de Gino. Il était à Milano, il était l'objet d'un mandat d'arrêt européen, il était arrêté. Ensuite, il a obtenu l'assignation à résidence. Puis, il a eu un procès à la cour d'appel. Cette dernière, le 28 mars 2024, a décidé de ne pas remettre Gabriele Marchesi à l'Hongrie, parce que la cour d'appel de Milano considérait qu'il y avait un risque réel, c'est-à-dire un risque concret et spécifique de violation des droits fondamentaux.
E la cosa molto interessante della decisione della Corte di Appello di Milano è stata che la Corte ha riconosciuto il fatto che anche...
La cosa interessante è che la Corte d'Appel ha riconosciuto che, même in caso di extradizione, Gabriele Marchesi non aurait pas passé beaucoup de temps dans les prisons hongroises, seulement le temps de la détention provisoire.
Perché poi avrebbe eseguito l'eventuale condanna in Italia.
E ensuite, a priori, il aurait purgé sa peine in Italia. Ma selon la Corte d'Appel, même pour un temps si réduit, la situazione des prisons in Hongrie è si grave qu'il avait le rischi réels d'une violation des droits fondamentaux, dans les cas échéants, les risques de torture et de traitements inhumains et dégradants.
E degradanti. Ma è ancora più interessante che la Corte d'Appello ha detto che questo
rischio generale... Ce qui est plus intéressant, c'est que la Cour d'Appel a déclaré que ce risque général est toujours présent en Hongrie, comme exposé dans de nombreux rapports ou dans des sentences de la Cour européenne des droits de l'homme, en ce qui concerne les conditions de détention. Mais la Cour d'Appel de Milano a déclaré que les risques encourus par Gabriele n'étaient pas seulement les risques généraux de n'importe quelle personne détenue en Hongrie, mais c'était un risque plus grave et spécifique dû aux opinions politiques de Gabriele.
Plus grave ed era un rischio individuale e specifico dovuto alle opinioni politiche di Gabriele Marchesi. La Corte di Milano ha utilizzato dei report che noi avevamo individuato come difesa. Ci sono tantissimi report, per esempio c'è un report del Parlamento europeo.
La Cour de Milano ha utilisé des rapports fournis par la défense. Par exemple, il y a un rapport du Parlement européen assez récent qui décrit la violence néo-nazie en Hongrie et fait constat d'attaques envers des militants de gauche et contre des personnes faisant partie des minorités ethniques et sexuelles.
Per esempio, le persone di origine, di una determinata origine etnica o di un determinato orientamento sessuale, e ci sono tantissimi report che dicono questa cosa.
Ces nombreux rapports dénoncent l'opacité des liens entre ces groupes néonazis et le gouvernement hongrois.
Nazisti e il governo ungherese, ci sono tantissimi report che dicono chiaramente
che des rapports énoncent clairement que les agressions perpétrées par des groupes d'extrême droite en Hongrie ne sont pas vraiment punies ou en tout cas ne sont pas réprimées dans des temps raisonnables et avec la fermeté nécessaire.
E con la necessaria severità. La Corte di Appello di Milano ha chiesto.
La Cour d'appel de Milano a demandé à la Cour hongroise de fournir ce qu'on appelle des assurances diplomatiques, c'est-à-dire des garanties écrites par le gouvernement, qui auraient permis d'enlever les doutes sur l'existence d'un tel risque.
Dubbi in merito all'esistenza di questo rischio. E questo.
E cela si fait régulièrement dans le cas du mandat d'arrêt européen.
Il governo ungherese ha
a ses requêtes, le gouvernement hongrois a répondu avec retard, avec des informations incomplètes et évasives.
Le domande della Corte d'appello di Milano. Noi come difesa abbiamo sostenuto che quelle assicurazioni non valessero.
La défense a donc argumenté que ces réponses n'enlevaient pas les risques de violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, et la Cour d'appel de Milano nous a donné raison. C'est donc avec peu d'informations que la Cour d'appel de Milano a pris la bonne décision.
Ora però ne è passato di tempo da marzo e noi sappiamo benissimo.
Beaucoup de temps est passé depuis et aujourd'hui tout le monde sait ce qu'Ilaria Salis a subi. On sait précisément ce qu'est en train de subir Maya, la personne de citoyenneté allemande qui était remise à l'Hongrie. Il y a des photos, on a des informations et subit les mêmes traitements.
Adesso, dopo tanti mesi, abbiamo molte più informazioni. Questa è la prima cosa. E la seconda cosa è che sempre perché il processo di Gabriele si è giocato comunque...
Puisque le procès de Gabriele a eu lieu il y a à peu près un an. À l'époque, nous avons beaucoup insisté sur les conditions de détention. Mais plusieurs mois se sont écoulés et d'autres choses se sont passées. En particulier, à partir de février 2024, beaucoup de représentants importants du gouvernement hongrois, tels les ministres des Affaires étrangères et les porte-parole du président Orbán, se sont exprimés en affirmant la culpabilité d'Ilaria Salis et des autres personnes inculpées au procès de Budapest. Les porte-parole d'Orbán a même écrit sur Twitter que Ilaria Salis et ses camarades sont des communistes terroristes et que comme tels, ils doivent être punis.
Ilaria Salis et ses compagni sont des communistes terroristes et que, en quanto tale, vanno puniti. Ora, se messa in relazione con i problemi sistemici di indipendenza...
Si on relie cette déclaration avec les problèmes systémiques concernant l'indépendance de la magistrature hongroise, la déclaration de cette sorte rend difficile croire que l'Hongrie puisse garantir un juste procès. Au contraire, c'est légitime d'affirmer que ces déclarations sont une grave violation au droit à la présomption d'innocence, qui au niveau européen est garantie par l'article 6, paragraphe 2 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Una importante differenza tra il caso di Gabriele Marchesi a Milano e il caso di Gino a Parigi è che a Milano il procuratore generale della Corte d'Appello.
Une différence importante entre le cas de Gabriele Marchesi a Milano e celui di Gino a Paris è che il procuratore generale della Cour d'Appel de Milano aveva donné un avis défavorable à la remise de Gabriele. Et c'est reliant à tous les arguments que nous avons amenés en tant que défense.
Il procuratore della
Par contre, à Paris, le procureur de la Cour d'appel exprimait un avis favorable à la remise, en étalant une argumentation très simpliste qui tenait aucunement en considération les contextes dans lesquels le procès aura lieu, ni la situation en
Hongrie.
L'effort de la procureure pour éviter de mépriser les droits fondamentaux paraît inversement proportionnel à l'effort mis en place pour arrêter Gino. Ses avocats, Laurent Pasquet-Marinacci et Yuri Krasuya, dénoncent une inquiétante dimension politique, ils déclarent.
D'une part, il y a un interventionnisme politique du pouvoir hongrois, via des déclarations publiques suite à l'arrestation de notre client. Et d'autre part, l'interpellation a été faite par la SDAT, la sous-direction antiterroriste, ce qui n'est pas du tout habituel pour une affaire de droit commun. Ils ont dénoncé aussi la pression des autorités judiciaires hongroises qui réclament plusieurs autres personnes à travers toute l'Union européenne.
Nous avons posé des questions concernant sa remise en liberté. Si la Cour d'appel refuse l'extradition de Gino, sera-t-il remis en liberté? Si oui, pourra-t-il se déplacer librement?
La décision di consegnare o meno viene presa dalla Corte di Appello.
La décision concernant la remise ou pas est prise par la Cour d'appel.
Per tutte e due le parti, quindi se la Corte d'appello decide consegna, la persona richiesta può andare in Corte di Cassazione, viceversa.
Les deux parties peuvent faire un recours en cassation. Par contre, une fois que la Cour de cassation se prononce sur ces mandats d'arrêt précis, la sentence est définitive.
La
France n'a pas le droit de garder Gino en détention pour des éventuels délits qu'il aurait commis en Hongrie. Elle peut le détenir en prison ou l'assigner à résidence, seulement le temps réduit de la prise de décision sur l'éventuelle remise ou pas. Si la décision de ne pas l'extrader, la France ne peut absolument pas garder Gino en détention et elle est obligée de le remettre en liberté. En général, le problème est que si l'individu voyage en Europe, par exemple en Allemagne, l'Hongrie a le droit d'émettre un nouveau mandat d'arrêt pour en exiger la remise. Si l'individu va, par exemple, de la France aux États-Unis, dans ces cas, le risque, c'est une demande d'extradition. Donc, effectivement, l'individu reste sous l'épée de Damoclès, dans le sens que théoriquement, il pourrait être l'objet d'un mandat d'arrêt européen dans chaque nouveau pays où il se rend, et donc être soumis à un nouveau procès.
Pour terminer, nous aimerions partager un extrait d'un texte écrit par Maya depuis sa cellule.
Le poison insidieux, l'acceptation. C'est probablement ce qui m'a poussé à tenir ce discours. L'orgueil, l'admiration pour toutes ces personnes qui ne permettent pas tout cela, mais qui au contraire, chaque jour, rendent visible une société queer, inclusive, antifasciste, féministe, critique, antiraciste, ouverte et solidaire, dans les grandes et les petites choses. Quand le ciel s'assombrit, regardons-nous, les uns, les unes, les autres. Comment l'humanité pourrait-elle se limiter à cela ? Je voudrais vous encourager à dire et à montrer combien de force réside en vous et combien de choses vous accomplissez chaque jour, à grande ou à petite échelle. Malgré le poison de la société, de la répression autoritaire jusqu'au populisme le plus fou, vous vous unissez, restez fermes et faites plus que crier des mots creux. Votre solidarité arrive à son but, soyez-en sûrs, soyez motivés et continuez à lutter. Vous parviendrez à changer les choses.
Il est fondamental de maintenir une forte pression médiatique et politique autour de cette affaire.
Seule une mobilisation large et soutenue permettra d'éviter l'extradition de Gino et obtenir la libération de notre camarade.
Le 18 janvier 2025, un événement se tiendra de 14h à minuit à la Parole Errante à Montreuil. prises de parole, tables rondes, concerts sont au programme. Cet événement servira à récolter des fonds pour les frais de justice et fournir à Gino le nécessaire pour la vie en prison.
Ce sera l'occasion de montrer, encore une fois, notre solidarité envers Gino, tout en ayant le regard tourné vers nos camarades poursuivis et enfermés ailleurs.
Pour suivre la mobilisation et rester informé, vous pouvez suivre la page Instagram Libérer Gino.
Par ailleurs, vous pouvez lui écrire par voie postale, disponible sur les différents canaux de soutien.
En parlant de lettres, j'ai pu échanger avec Gino, notamment sur l'espoir et sur le fait de se mobiliser. Il m'a mentionné une musique d'un groupe qui s'appelle Borghesia. No Hope, No Fear. Dédicace à toi, Gino. Libéro Gino.
Libérez tous les antifas.
Mobilisons-nous.
Savage place.